Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Paris en 2014 dans les locaux de LCP, la chaîne de télévision que vous trouvez sur le canal 13 de la TNT. C'est une journée comme une autre pour la journaliste Astrid de Villene. Elle vient de passer un coup de téléphone et traverse l'open space pour regagner son bureau. C'est là qu'elle croise Frédéric Aziza, l'un des présentateurs de la chaîne. Il se met en travers de son chemin et lui bloque le passage. Elle lui demande de s'écarter. Il insiste pour qu'elle passe devant lui. C'est à ce moment-là qu'il la prend par la taille et lui pince la fesse gauche. Elle crie « Ça va pas Fred, t'es pas bien, on est en 2014 ». Puis rejoint son bureau, choqué. Plusieurs journalistes sont témoins de la scène. Astrid de Villene et Frédéric Aziza sont convoqués par le rédacteur en chef qui exige du présentateur des excuses. Lui nie d'abord les faits, puis les reconnaît et propose un pain au chocolat à Astrid de Villene pour clore l'incident. Comme sanction, il reçoit un avertissement de la part de la direction. Astrid de Villene hésite à porter plainte. 3 ans plus tard, et un mouvement MeToo, elle se rend en novembre 2018 au commissariat et dépose enfin une plainte pour agression sexuelle. Presque immédiatement, Frédéric Aziza est suspendu de la chaîne. Mais un mois plus tard, le 21 décembre, la direction annonce qu'il va être réintégré. Les journalistes s'opposent à son retour, une motion de censure est déposée contre la dite direction, mais l'homme retrouve l'antenne. Au mois de juillet 2018, Frédéric Aziza reçoit un rappel à la loi de la part du parquet de Paris en réponse à la plainte. Le présentateur conteste formellement à l'AFP en ces termes « Je suis un blagueur, mais ce n'est pas parce qu'on est un plaisantin qu'on est un agresseur sexuel ». Au mois de février, en revanche, c'est Astrid de Villene, elle, qui a démissionné devant la pression interne devenue pesante. Un an après le mouvement MeToo, il y a donc ceux qui ont réussi à se faire entendre et les autres. Deux histoires tout de suite dans les pieds sur terre sur ce que MeToo a changé dans leur vie, du presque rien au pire en passant par le meilleur. Et c'est un sujet de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je suis ingénieure et étudiante en architecture. Et il y a 2 mois, j'ai subi une agression suite à un harcèlement de rue. Donc je rentrais chez moi, je marchais dans la rue. Enfin, il était 18h45, en plein été, donc en pleine journée. Il fait jour, les rues sont bondées. J'ai croisé donc un homme qui, à mon passage, a fait des espèces de bruits de bouche. Des coups de langue, enfin tout un tas de bruits, comme s'il s'adressait à un animal, comme si on était un chien. Quand un mec me regarde, soit je le regarde mal, ou sinon, de manière générale, c'est surtout juste avec le regard en fait. Et puis une amie m'avait dit qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait un doigt d'honneur, tranquillement après. Comme ça, lui voit pas le doigt d'honneur, donc elle risque rien, mais elle, ça lui fait du bien en fait. Sauf qu'au lieu de faire un doigt d'honneur, j'ai dit ta gueule, mais je pensais pas qu'il l'entendrait. Sauf que vu qu'il est en train de me mater, il me regarde, donc il entend le ta gueule. Tout de suite, il commence à dire « t'as dit quoi, t'as dit quoi ?» Là, moi, je me retourne pour le regarder en mode « mais... enfin... oh bah oui, ta gueule, en fait !» Non, enfin... Bon, il continue d'avancer, et en fait, sur nos chemins respectifs, il y a une terrasse entre nous. Là, il attrape un cendrier, il me le jette dessus. Ça passe à côté de ma tête, heureusement. Et là, je me dis « non, mais... enfin, c'est quoi, ce mec ?» Non mais oh, il va se calmer tout de suite. Enfin, je sais pas pourquoi ce jour-là j'ai eu la rage. Mais j'ai eu la rage de toutes les autres fois. En fait, je pense que je me suis sentie aussi un peu plus dans la possibilité de réagir parce que j'étais en pleine journée devant 2 terrasses bondées. Donc je savais qu'il allait rien pouvoir m'arriver de si grave. Inconsciemment, ça s'est fait. C'est une réflexion qui s'est faite en un millième de seconde, hein, puisque j'ai tout de suite réagi. Enfin, je me suis énervée et j'avais l'adrénaline, donc après qu'il m'ait jeté le cendrier, je l'ai insulté. Et j'ai dit « t'es fier de toi, gros fils de pute ». J'aime pas du tout l'insulte « fils de pute » parce que je trouve ça totalement inutile d'insulter la maman de quelqu'un alors qu'on devrait l'insulter lui. Et c'est ce qui s'est passé, donc je l'ai insulté et là, lui, il est revenu. Je l'ai vu arriver, c'était pas question que je baisse les yeux ni que je parte, parce que j'habitais juste à côté en plus. Enfin, j'avais pas d'échappatoire, donc je me suis dit « bah tant qu'à faire, on va rester là en le regardant droit dans les yeux avec le plus de dignité possible ». Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit qu'il va quand même pas oser. Enfin, c'était un peu un jeu de fierté. Moi, je le regardais, lui, il arrivait. Qui va craquer le premier? Qui va baisser les yeux? Et bah, il y allait jusqu'au bout. Il m'a frappé donc avec la main droite. Je suis pas capable de dire si c'était une gifle ou un coup de poing. En tout cas, c'était fort, assez fort pour que tout mon corps soit emporté et que je, enfin, ça me fasse trébucher quoi. Bah, je sais pas si c'est une claque ou un coup de poing à vrai dire. Est-ce que ça change grand chose? En tout cas, ça fait mal.
Sur votre visage?
Ouais, j'ai surtout pris à la pommette et à l'arcade sourcière. Et je l'ai continué à le regarder droit dans les yeux, mais sans montrer la moindre trace de douleur ou quoi que ce soit. Les témoins du coup de la terrasse de bar se sont levés tout de suite et ils disaient « Oui, je vais vous défoncer aussi. » Puis lui, il était vraiment violent. Il disait qu'il allait les défoncer comme moi, quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, j'ai un trou noir à ce moment-là. C'est ce que les témoins m'ont dit. Et après ça, il est parti. Moi, je suis partie. Je suis allée chez moi avec la tête qui tapait fort. J'ai envoyé tout de suite un message à des amis. Et en fait, vu que j'étais dans un état un peu toute seule chez moi, en train de pleurer, en état de choc, je me suis dit, mais enfin, je vais pas rester là à pleurer toute seule. Enfin, ça va rien changer à la situation. Du coup, je me suis levée, je suis allée sécher mes larmes, j'avais eu bouffi, je suis ressortie tout de suite en me disant, enfin, si j'y vais pas maintenant, ça se trouve les témoins ils vont partir et ça sera foutu quoi. Je me suis approchée un peu timidement, j'ai fait « Oui, est-ce que vous étiez là tout à l'heure ?» Et puis d'un coup, en fait, ils m'ont dit « Oui, oui, ça va. » Et puis les autres gens se sont levés, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit « Ça va, madame ?» et tout, machin. Pendant que j'étais dans le bar, il y a donc un serveur du bar qui m'a dit de contacter le patron du bar parce qu'il avait accès aux vidéos de surveillance et que peut-être qu'on pourrait voir. Mon premier réflexe était « Ouais, je vais porter plainte, mais bon, porter plainte, quoi. » Mais bon, il faut le faire. Je pensais jamais qu'on allait le retrouver, mais ça montre que c'est tellement important. Parce que moi, il se trouve qu'ils l'ont retrouvé. Quand j'ai revu la vidéo, j'ai été... Ce qui m'a le plus choqué, c'est la violence du coup. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais tellement d'adrénaline, moi je l'ai pris, j'ai pris le coup comme ça. Mais j'ai un peu valsé sur le côté. On voit vraiment juste à partir de ma tête, donc on voit pas. Enfin, on voit mon corps qui part, ma tête qui part. Et en fait, cette vidéo, bah, elle était vraiment choquante. Du coup, je me suis dit, bon, bah. Enfin, là au moins, on pourra pas discuter. Du fait, est-ce que c'est de la drague ou du harcèlement? Bah non, c'est pas de la drague, parce que quand on drague et qu'on dit non, a priori, on ne se prend pas un coup dans la gueule. Enfin bon, du coup, moi, je l'ai posté parce que c'était... Enfin, ça me paraissait important. J'ai porté plainte. En fait, le commissariat m'a rappelé le lundi suivant, suite à la médiatisation qui a eu lieu. Parce que le parquet a ouvert une enquête. Et donc, ils m'ont rappelé, on a refait la plainte plus en détail pour choisir les chefs d'accusation, les charges, qui étaient donc harcèlement sexuel, violence avec arme et violence. Violence avec arme pour le cendrier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec la vidéo qui a beaucoup tourné, j'ai reçu des messages de personnes sur Internet, sur Facebook et sur Twitter, qui m'ont donné des informations, qui m'ont dit qu'ils avaient vu cet homme à cet endroit-là, qui s'était battu, je crois, avec un vigile. Donc, grâce à ça, on a pu retracer les caméras de sécurité. Et c'est grâce à ça qu'un internaute m'a donc donné sa photo, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, son adresse. Quand il a été retrouvé et qu'il a été mis en garde à vue au commissariat, il a tout avoué. Il a raconté la scène exactement, sauf que lui, il dit m'avoir fait un compliment. Lui, il dit qu'il aurait dit « le rouge te va bien », ce qui est totalement faux. Enfin, je veux dire, moi, je ne l'ai pas entendu, en tout cas. Et les témoins, je ne crois pas, ne l'ont pas entendu non plus.
Ça faisait référence à quoi ? Rouge.
Ah, parce que je portais une combi short rouge. Et puis il aurait aussi dit dans sa déposition que je l'aguichais, que je marchais en me dandinant et que j'ai fait exprès de passer devant lui pour l'aguicher. Voilà, qu'en gros je l'avais un peu cherché. Il est jeune, il a 25 ans et je pense que c'est ce genre de personne qui... Comment dire, il assume sans problème. Il en a profité pour essayer de dire qu'il s'excusait vis-à-vis de moi, mais bon, il a dit. Alors, ouais, je voudrais m'excuser, Je sais parler, j'aurais dû utiliser des mots plutôt que de la frapper pour lui donner une meilleure leçon de vie. Donc il avait bien commencé par je m'excuse, je sais utiliser des mots, mais alors tout faux sur la ligne quoi. Et pareil, quand son avocate, donc commis d'office, a commencé à le défendre, il a voulu dire que je la guichais, elle lui a dit tout de suite non. C'est possible qu'il aille en prison vu qu'il a déjà eu beaucoup de condamnations, notamment pour proxénétisme et pour séquestration et pour beaucoup de faits de violence. Il n'a pas compris en fait qu'on ne s'adresse pas aux femmes comme ça. Au lieu de la prison, moi j'aimerais bien qu'il fasse un stage intensif à devoir écouter des femmes les unes après les autres qui lui expliquent qu'est-ce qu'elles ressentent. Bah les jours après l'agression, forcément, j'avais pas envie de sortir, je suis restée dans mon lit, je me sentais pas forcément très très bien, un petit peu déprimée, bon, j'avais vraiment pas envie de sortir. J'ai dû sortir pour retourner au boulot, c'était pas facile, je me suis mise à pleurer en arrivant. Mais tout doucement, j'essaie de me réhabituer, mais déjà j'essaie de recommencer à regarder autour de moi les gens. Quand on s'est fait agresser par un homme, bah, dès qu'il y a des hommes partout autour qui nous regardent, qui sont là... Ils sont bien, ils sont installés, ils sont confortables. Vous voyez ce que dans la rue, moi j'étais pas à l'aise. Enfin, c'était vraiment, ça demandait vraiment beaucoup d'efforts. Du coup, moi je continuais à sortir comme je le voulais, mais du coup jamais sans mes écouteurs et toujours en regardant droit devant moi, la tête haute et tendue, mais alors de partout. Et ça va de mieux en mieux. Au début. Rentrer de nuit, c'était vraiment une source d'angoisse. J'appelais une amie qui me parlait au téléphone et je lui disais, mais j'étais vraiment à la limite de partir en crise d'angoisse. Je lui disais, mais non, ça va pas là, je vois un homme, il marche sur le trottoir, je fais quoi. Et elle me permettait de rationaliser. En fait, j'avais complètement perdu mes repères. Mais ça, je les regagne tout doucement, je me force. Hein, ça revient de mieux en mieux. Le trauma de cette agression, il est complètement touché aussi par l'histoire des messages haineux, menaces de mort, menaces de viol. C'est... Si un jour je croise Marie Laguerre dans la rue, je lui démolis la mâchoire et elle mangera à la paille jusqu'à la fin de sa vie. Merci. Fais-moi une gorge profonde, je te prends, je te déshabille de force et je te viole, salope, grosse salope, sale chienne, en te déshabillant de force, je bande, je te pénètre, sale suceuse de bite.
Et là, vous êtes sur votre page Facebook?
Oui, sur ma page Facebook, je l'ai publiée en public. C'est une haine profonde. Je sais même pas si c'est une haine contre moi, c'est une haine contre ce que je représente, pour ce que je fais, je sais pas, enfin c'est... Ils me connaissent même pas, donc c'est même pas contre moi en tant que personne, puisque ils savent même pas qui je suis. Mais enfin, ouais, il y a une haine, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment une haine. Dès qu'on est une femme et qu'on ouvre sa gueule, en fait, on se prend tout un tas de merde en retour. Non, mais enfin, ça atteint en fait malgré nous. Même si on sait que c'est n'importe quoi, ça nous atteint malgré nous.
Est-ce que vous avez regretté d'avoir publié la vidéo et tout ce que ça a entraîné ?
Non, absolument pas. Jamais je regretterai. Le truc le plus violent qui me soit arrivé dans ma vie, c'était en bas de chez moi. Et pourtant, j'ai voyagé à 12 000 km de la France. Donc, c'est dans ma... C'est peut-être... j'ai trop de rage, dans le bon sens du terme, trop de rage, d'envie de que ça change et de me battre pour me plier et pas dénoncer et pas me battre. Il y a eu des messages très moches, mais il y a eu aussi des messages vraiment très, 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 très beaux. Puis, de toute façon, je regretterai jamais de parler. Le féminisme, c'est pas se battre contre les hommes. Hein. Donc, il n'y a rien à voir avec une guerre des sexes. Par contre, c'est une guerre contre les connards.
J'ai rencontré Marie au moment de son procès, en octobre 2018. L'homme qui l'a frappée a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Il devra également verser 2000 euros à Marie pour le préjudice moral qu'elle a subi.
Je vous parie tout ce que vous voulez qu'on va se prendre une remarque.
Les groupes là, de mecs qu'on vient de croiser.
En fait, je profite d'être à deux, genre je me détends totalement. Parce que j'ai tellement été stressée toute seule. C'est injuste. Ça se trouve, eux, ils sont gentils. Ils vont au contraire, s'il y a quelqu'un qui nous emmerde, ils vont nous aider. C'est terrible. En fait, c'est une minorité qui fait chier. Mais cette minorité-là, elle est quand même très, très vaste. Hein, parce que je connais pas une seule nana qui a pas été emmerdée. Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
Quelques jours plus tard, un sitting est organisé place de la République à Paris contre les violences faites aux femmes. C'est là que je rencontre Emmanuel. Je le remarque très vite parce qu'au milieu de toutes ces femmes, c'est le seul homme de la manifestation. Je lui ai demandé si MeToo avait changé quelque chose pour lui.
Moi, en fait, j'en espérais que quelque chose comme ça se passe. On mesure qu'on va devoir répondre à des questions qu'on a eu le privilège de ne pas se poser. Des tas de choses qu'on faisait dont on n'a pas eu à se demander si c'était bien ou si c'était mal. Des attitudes, des gestes, des actes qui auraient été les nôtres à un moment de notre vie. Sachant qu'en fait, on parle de nous, quoi. Hein, quand, en fait, quand on parle de nous, les hommes, quand, les mecs, quand il y a des histoires de violence faites aux femmes. Enfin, moi-même, j'ai été lâche. Hein, j'ai une amie Facebook qui avait proposé que les hommes qu'elle avait sur sa liste fassent MeToo à l'envers, quoi. Disent ce qu'ils avaient fait de mal. Comment ils avaient eu des attitudes toxiques, des gestes parfois peut-être criminels, enfin voilà. Je crois qu'il y en a 4 qui l'ont fait et j'en faisais pas partie. On n'a pas forcément envie de déballer ces histoires, de...
Son histoire à lui, c'est qu'il a 41 ans, qu'il est prof de philo et qu'il habite seul avec sa fille. Ça fait peu de temps qu'il est séparé de sa compagne et il m'explique pourquoi.
J'ai eu des gestes déplacés, j'ai eu des propos déplacés, j'ai levé la main sur une de mes compagnes. Je vais pas rentrer dans les détails de comment j'en arrive à lever la main sur elle. Hein. Je n'avais aucune illusion sur le fait que j'en étais capable. C'est quelque chose que je surveille dans mes histoires de couple, pas parce que je me crois particulièrement violent, mais parce que je sais que n'importe quel homme en est capable. Voilà. J'ai la honte d'avoir frappé un être que j'aime. Si je n'ai pas envie que de faire davantage de mal, que c'est moi qui devais prendre la décision que je n'ai pas voulu prendre jusqu'à présent, m'en aller, accepter que ma fille, le lendemain matin, se demande pourquoi son père n'est plus là, peut-être devoir avoir à lui expliquer.
Vous parliez aussi des gestes déplacés ou des remarques. Vous pensez à quoi, par exemple ?
Dans le cadre de rapports avec une collègue et amie, je suis en train de l'abasser, j'ai envie de lui signifier que j'ai envie d'aller plus loin. Je ne lui ai tout simplement pas dit que j'avais envie d'aller les plus loin. J'ai commencé à me diriger vers sa poitrine. Donc, elle m'a dit non, j'ai arrêté tout de suite. Mais bien sûr, j'aurais pas dû avoir le geste. Hein. Donc, c'est une source de tension entre nous. Elle m'a accusé de harcèlement parce qu'elle n'avait pas les mots à l'époque pour dire agression sexuelle.
Ça veut dire quoi, elle vous accuse, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au commissariat ?
Non, mais elle en parle dans des moments de conversation au sein de notre ancienne association, où je suis là aussi. Voilà, et donc après, on apprend qu'avoir se diriger vers la poitrine de la mia auquel elle est en train de faire un massage, c'est pas être coquin, c'est être violent, quoi. Voilà. Hein. Je parle des choses choses qui maintenant remontent à 15-20 ans. Hein. Je ne me suis pas dit j'ai juste fait ça. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté tout de suite. Je suis quand même alerté sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle le consentement. Je m'attendais pas à ce qu'elle me dise « tu me harcèles ». Quand j'entends ça, je me dis « mais qu'est-ce qu'elle raconte ? On n'a pas de rapport hiérarchique. Il n'y a pas eu d'insistance de ma part. Je le prends d'abord à la lettre. Je n'ai pas les outils d'interprétation que j'ai appris à avoir ensuite. C'était un geste de « ça passe ou ça casse ». Quoi. Soit elle va être d'accord, soit elle va me gifler. Enfin, quelque chose comme ça. Quoi. Moi, j'ai ce schéma-là en tête. Enfin, c'est là qu'on constate qu'on n'est pas dans le même esprit tous les deux. Quoi. Voilà. Donc, ça se passe très simplement sur le moment. C'est grâce à elle que je comprends. Et donc peut-être elle m'a appris quelque chose et qu'elle est en partie responsable du fait de là où j'en suis aujourd'hui.
Maintenant, Emmanuel se dit féministe. C'est peut-être pour ça qu'il me parle aussi ouvertement. Pour lui, MeToo n'est pas de s'interroger sur son comportement avec les femmes. Ça, il le fait déjà depuis longtemps. Non, en revanche, la grande surprise pour lui, après MeToo, ça a été de découvrir que parmi les personnes qui se mettent à parler maintenant, parmi ces femmes, il y a l'une de ses amies.
Parmi les témoignages qu'il y a eu, il y a une personne que j'avais perdue de vue. Donc c'était une personne que j'ai connue dans ma deuxième vie d'étudiant. Hein, j'ai repris des études sur la trentaine. Et à ce moment-là, il y avait eu un mouvement étudiant au cours duquel j'ai rencontré cette personne dans les années 2000. Et dans l'université où nous étions, ce mouvement a été assez intense. Ça en est une des animatrices les plus visibles. Quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de talent pour les exprimer. Elle avait fait un des discours qui avait été les plus applaudis. Et un jour, elle a disparu. Donc c'est pendant la vague MeToo. Donc cette personne que je vais appeler Mallarmé, elle intervient pour donner son MeToo elle aussi.
Donc vous découvrez son post Facebook.
Et je découvre son post Facebook. Alors c'est visiblement difficile pour elle. Il y a un long préambule. Elle finit par livrer un récit des faits et donc du viol qu'elle a subi. Je tente de créer un groupe politique en réaction à l'élection de Sarkozy. Parmi les recrues, un mec assez charismatique, en couple. Au bout de 3 réunions, le mec m'invite à dîner chez eux. Et quand je débarque, lui et sa meuf sont habillés comme dans un film de cul des années 70. Nuisette vaporeuse et débardeur mouillé. Je recule en crabe, explique que je ne suis pas du tout là pour cette raison. Mais le mec va insister toute la soirée jusqu'à ce que je me mette à pleurer. Évidemment, j'ai bien bu. Je tiens moyen debout pour rentrer d'un seul coup sec chez moi. Sa meuf s'est fait semblant de me comprendre. Je reste dormir juste pour dormir, à côté de la meuf. Juste parce qu'elle m'a supplié de rester, et qu'ils ne sont pas des salauds, et qu'elle ne veut pas que je parte en larmes. Mais le gars enjambe sa meuf et me viole carrément vers 5h du mat. Je me révolte encore 3000 fois, puis je me lève dans le noir, m'habille à l'arrache, me précipite dehors. Le lendemain matin, la fille viendra chouiner à ma porte que c'est vraiment horrible la façon dont ça s'est passé. Et par la suite, je quitterai ce groupe politique, donc elle a fondé, hein. Je quitterai ce groupe politique, vu qu'aucun des autres militants d'extrême gauche à qui j'ai raconté l'histoire pour qu'ils me vengent et virent ce mec qui m'empêchait de m'exprimer au seul souvenir d'eux. Aucun de ces mecs, donc, n'a eu l'honneur de s'exprimer face à l'agresseur et ami, de questionner, de juger, encore moins de punir. Des années après, je me demande comment j'aurais pu faire pour me venger de lui. J'ai su très vite que je n'étais pas ça, ou en l'occurrence, leur seule victime. Alors, quand vous aurez envie de me dire que c'est horrible et que ma pauvre, demandez-vous bien ce que vous seriez capable de faire dans cette situation, en tant qu'homme, que femme, qu'amie. Et après seulement, permettez-vous d'ouvrir. Parce que dans la réalité, personne ne bouge. La lâcheté, le compromis, la burègne, et ils sont de notre fait, enfin du vôtre. Voilà. C'est... moi, ça me cause du désespoir, quoi. De me dire, pour une fois qu'on laisse une femme parler, on bénéficie de son énergie, de son talent, et tout ce que nous, les mecs, on trouve à faire, quoi. Enfin, ouais. C'est une femme en vue, donc il faut se la faire, quoi. Quelque part, il faut lui faire rentrer dans le corps, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, quoi. Comme un acte de gendarmerie. Voilà, c'est les punis pour avoir émerveillé des hommes. Il y a un détail que je dois rajouter. Il se trouve que je connaissais l'homme qui l'a violé. Je ne le connaissais pas personnellement, hein, mais c'est quelqu'un que j'avais connu donc dans une ville de province, dans ma première vie d'étudiant. C'est quelqu'un dont déjà à l'époque je me méfiais, avec qui j'ai eu des affrontements politiques, dont un affrontement politique où il m'a répondu en me mettant un coup de poing. Et j'ai pas osé dire tout ce que je pensais. Et notamment, j'ai pas osé dire aux femmes que je connaissais, attention, quoi. Ce mec est un gros tartuffe et je sais pas jusqu'où va sa perversion, parce qu'il nous avait aussi tenu des discours. Hein. Et donc, de me dire que peut-être j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu dire quelque chose. Bêtement, j'ai aussi pensé à moi. Hein. Et j'ai été en colère contre moi. Peu d'hommes qui se convertissent au féminisme, quoi, de se dire que de traiter la question des droits des femmes et de la condition des femmes comme quelque chose d'important, et que leurs histoires à elles sont aussi importantes que les nôtres, de dire que ce sont des histoires sérieuses auxquelles on doit s'intéresser parce que ça va nous changer nous-mêmes et ça va changer la société dans laquelle on vit. Et bon, c'est quand même bon qu'on entende que même quelqu'un qui était pas trop macho et même pas très viril est capable de comportements masculins normaux, quoi. et toxique, et parfois délictuel, quoi. Il y a personne qui est à l'abri. Dans MeToo, il y a aussi l'effet de masse, quoi. On est obligé de constater à quel point c'est répandu. C'est pas un accident, c'est pas juste le fait d'hommes qui sont très 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 méchants. Quand c'est aussi massif, on est obligé d'admettre que c'est une norme qui n'est pas normale, mais une norme quand même, quoi. Ouais.
cause war is coming and we're stuck here with the minivans, with the little tears. War is coming and we're stuck here, here with the minivans, with the little tears. Hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker run. Threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me. No call for an all, and can wash it all away.
Des clics et des claques, Me Too un an plus tard. C'était un reportage de Valérie Borst réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci à Maria Emmanuel, à Charlotte Bien-Aimée, au collectif Nous Toutes et à Marine Turki. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire. Together.